Mes chers frères et sœurs, nous nous retrouvons en ces vêpres de carême. La fois précédente, nous avions vu une chose déterminante pour le combat spirituel, c'est qu'il fallait être absolument en phase avec la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu, c'est que l'on soit saint. Et que dans ce désir de Dieu pour nous, cet appel à la sainteté parce qu'il est saint, il était important pour nous que nous collions à cette volonté de Dieu. Et donc, ce qui était capital, comme le rappelle Thérèse d'Avila, c'est l'importance du désir. Si nous ne désirons pas être saints, c'est même pas la peine d'y aller, c'est même pas la peine de courir, hein, comme on vient de l'entendre à travers le texte que nous dit Paul. Si on court, c'est pour emporter la victoire. Et donc on a besoin du désir et de la détermination. Nous avons vu ça la dernière fois, et si nous sommes là, c'est que nous sommes déterminés à marcher sur le chemin de la sainteté. Voilà. Aujourd'hui, ce que j'aimerais que nous voyons, c'est comment sortir de nos conflits intérieurs pour livrer le bon combat. Le combat est quelque chose de fondamental dans notre vie, hein, comme je vous le disais déjà, qu'on soit croyant ou incroyant, mais j'ai trouvé quelque chose dans le catéchisme de l'Église catholique qui reprenait un texte de Vatican II et dans Gaudium et Spes au chapitre 37 et au paragraphe 2. Je vous le lis parce que c'est tellement fondamental que ça conditionne complètement notre vie de chrétien. Gaudium et Spes souligne « Cette situation dramatique du monde tout entier qui gît au pouvoir du mauvais fait de la vie de l'homme un combat. Un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes. Commencé dès les origines, il durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien, et non sans grand effort, avec la grâce de Dieu, il parvient à réaliser son unité intérieure. » Et c'est cette dernière phrase qui fait le cœur de ce que nous allons regarder aujourd'hui, la question de notre unité intérieure. C'est vrai que le combat spirituel, c'est très militaire. Une des premières choses qu'on fait quand on est affecté, on va rejoindre son unité. Alors là, on est appelé à rejoindre notre unité intérieure. Bon, je suis lorrain, il y en a peut-être dans cette chapelle. La Lorraine a un avantage, c'est que ça a été un lieu de grande bataille. Et ça sert beaucoup spirituellement parce qu'on me montrait les lieux où on se battait avant et l'importance de l'endroit, du champ de bataille que nous avons pour livrer une bataille. Et une grande partie de la bataille se gagnait parce qu'on était sur le bon terrain et qu'on était arrivé à mettre l'ennemi sur un mauvais terrain. Et spirituellement, c'est la même chose. Toute la ruse de notre adversaire, le diable, va être de nous entraîner sur un mauvais terrain, sur un terrain qui sera à notre désavantage spirituellement, où on va s'embourber, on va s'enliser, et au lieu de se battre et de livrer le bon combat, on va passer notre temps à nous débattre. Et ça, je crois que si on a un tout petit peu regardé à l'intérieur de soi, si on a un petit peu analysé ce qui se passe en nous, eh bien, on se rend compte que c'est ce que nous vivons très très souvent. Nous nous débattons plus que nous nous battons réellement. Alors, ça m'a interrogé dans ma propre vie de me dire, mais comment l'ennemi arrive à m'entraîner sur un mauvais terrain? Et pourquoi surtout il le fait avec une telle facilité? Et je me suis rendu compte que nous étions, et j'étais, et on l'est encore en partie toujours, mais j'étais divisé en moi-même. C'est-à-dire, nous sommes, en fin de compte, des êtres qui avons à réaliser notre unité. Nous sommes des chrétiens, mais à l'Église, souvent, nous sommes assis et nous avons, parce que je parle de spiritualité, l'âme entre deux chaises. On est toujours un peu tangent, nous ne sommes pas unifiés. Et la division, le manque d'unité en nous, vous savez que notre adversaire, le diable, s'appelle, il a un nom aussi, il s'appelle le diviseur. Notre Seigneur, c'est le multiplicateur, il multiplie les pains. On lui en donne cinq, il nourrit 5000 personnes. Notre adversaire, le diable, c'est le diviseur, c'est celui qui sème la zizanie, hein, c'est celui qui sème l'ivraie en nous. Et toute la pédagogie de Jésus par rapport aux apôtres, ça a été de les amener à prendre conscience qu'ils devaient réaliser une unité, leur unité intérieure, être un en eux-mêmes pour être un avec le Christ, comme le Christ est lui-même un avec le Père. On peut tous relire Jean 15, la vigne, les sarments, faire un, on porte du fruit si on fait un. Donc l'importance de cette unité. Alors, j'ai relevé 6 points que je vais évoquer avec vous, parce que c'est quasiment 6 points incontournables dans la pédagogie de Jésus pour amener ses apôtres, ses disciples, à entrer dans cette unité. Le premier point, c'est que Jésus nous dit « on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois ». Matthieu 6, verset 24. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Donc nous avons véritablement un choix à faire dans notre vie. Qui est-ce que l'on sert ? C'est-à-dire pour qui on travaille ? Le deuxième point, Jésus nous dit « celui qui n'amasse pas avec moi disperse ». Dans Saint Luc au chapitre 11, verset 23. Tout ce que nous faisons, si nous ne le faisons pas comme je le disais la dernière fois, eucharistiquement, toute notre vie est un appel à être une vie eucharistique. Et dans l'Eucharistie, il y a un moment que je trouve extrêmement fort, c'est quand le célébrant dit, et nous l'écoutons et nous disons Amen, par lui, avec lui et en lui. Tout ce que nous avons à faire, c'est à accomplir, c'est par lui, avec lui et en lui. Et ce que nous ne pouvons pas faire par lui, avec lui et en lui, il ne faut pas le faire. Voilà. Mais chacun de nos actes, le plus petit de nos actes, peut rejoindre et porter du fruit en vie éternelle, rejoindre le grand plan de Dieu. Donc c'est important, celui qui n'amasse pas avec moi disperse, nous dit le Seigneur nous demande d'amasser avec lui et d'amasser dans le royaume de Dieu en agissant sur cette terre. Jésus nous dit aussi autre chose. Il nous rappelle que tout royaume divisé est dévasté. Dans Saint Luc, au chapitre 11, verset 17. On peut remplacer tout royaume par tout homme, toute famille, tout pays. Quand il y a de la division, il y a de la dévastation qui n'est pas loin. Et donc le Seigneur, là encore, souligne l'importance de l'unité, de ne pas être divisé. Et puis Jésus dit une chose qui nous consterne très très souvent, qu'on prend très très mal. Il dit « Celui qui ne m'aime pas plus que son père, sa mère, son frère, sa sœur et même sa propre vie n'est pas digne d'être mon disciple. » Alors là, quand on se dit ça, on se dit « Bon, c'est dans Matthieu, chapitre 5, c'est dans Luc chapitre 14, verset 26, on se dit « Waouh, si Jésus dit ça, soit Pierre lui avait mis des boules le matin, Pierre avait dû encore faire un truc pas possible qui l'avait mis en colère, ou alors la mère de Pierre avait fait un petit déj qui n'allait pas. » On doit certainement, au fond de notre cœur, penser ça, parce qu'on prend cette phrase si peu au sérieux qu'on se dit « Bon, est-ce que c'est vraiment, est-ce que Jésus était dans un état normal quand il nous a demandé ça ?» Et c'est fondamental, celui qui ne m'aime pas plus que son père, sa mère, son frère, sa sœur, sa propre vie même. Et pourquoi le Seigneur nous demande ça ? C'est parce que si nous mettons le Seigneur au centre de notre vie, comme nous le rappelle le pape François, si on ne met pas le Seigneur au centre de notre vie, ce sera autre chose qui sera au centre. Et en général, ce qui sera au centre ne sera pas beau, ni bon. Donc le Seigneur nous appelle à faire cette unité en le mettant à la première place, c'est-à-dire au centre de nous-mêmes. Mais pourquoi ? Pour que toute notre vie irrigue de sa propre vie à lui et que, en fin de compte, en l'aimant avant toute chose, nous puissions aimer toute chose à travers lui. C'est en fin de compte, en mettant Jésus au centre de notre vie, on va mieux aimer sa femme, on va mieux aimer son père, on va mieux aimer sa mère et on va mieux s'aimer nous-mêmes aussi. Parce que notre propre vie, souvent, comme je le soulignais déjà, nous sommes nos pires ennemis et nous nous aimons assez peu. Si nous avons le Seigneur au centre de notre vie, nous nous aimerons beaucoup plus. Et un dernier point qui est capital dans la question de notre unité, Jésus nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, tout le reste vous sera donné par surcroît. » Eh bien, si vous voulez, quand le Seigneur nous dit ça, il nous demande premièrement de nous occuper de ses affaires et lui s'occupera des nôtres. Et nous, on passe notre temps à faire le contraire. Parce que c'est quoi le surcroît, hein? Vous le relirez dans le chapitre 6 de Matthieu, verset 33. Le surcroît, c'est le manger, le boire, le vêtir. Donc tout ce qui fait l'essentiel de ce pourquoi nous œuvrons. Parce que le manger, ça peut être large, le boire, ça peut être large, et le vêtir, ça va jusqu'à la maison, hein, se vêtir. Hein, c'est... Le Seigneur nous dit, les païens s'occupent de ça. Ne vous occupez pas de ça. Les païens, c'est ceux qui sont des êtres très religieux, mais qui adorent des idoles. C'est des gens divisés. C'est des gens qui vont au gré de leur propre passion et essayent de se mettre des divinités dans la poche. C'est ça. Et ceux qui se comportent comme ça, eh bien, ceux-là sont soucieux de ce qu'ils vont manger, de ce dont ils vont se vêtir, de ce qu'ils vont boire. Et il nous dit, ne soyez pas comme les païens, unifiez-vous, œuvrez pour le royaume de Dieu, et je vous le dis, tout le reste vous sera donné par surcroît. Et je puis attester que dans notre propre vie, nous avons mis cette phrase en pratique, et je peux vraiment attester à titre de témoignage que cette parole du Seigneur est vraie aujourd'hui. Sauf que notre adversaire, le diable, il nous fait croire que si on fait ça dans notre vie, ça va être la catastrophe. Or, très souvent, en n'écoutant pas Jésus, en nous occupant du manger, du vivre et du vêtement, eh bien, c'est souvent là que notre vie devient une catastrophe. Donc cet appel à l'unité est quelque chose de capital, parce que si nous sommes divisés en nous-mêmes, eh bien, nous ne pourrons pas mener un combat, le combat spirituel auquel le Seigneur nous appelle, nous allons en réalité être en conflit intérieur avec nous-mêmes. Nous allons être sans cesse tiraillés, parce que nous n'avons pas fait cette unité en nous. Et j'aimerais vous donner quelques exemples qui vont, tout simplement pour terminer, qui vont montrer combien ces conflits intérieurs sont prégnants dans notre vie. À force de réflexion, j'ai trouvé quelques éléments de discernement qui nous permettent de nous rendre compte si nous sommes dans le combat ou si nous sommes tiraillés. Alors, j'ai fait un joli tableau. Il suffit simplement que je le retrouve. Voilà. Pour discerner ce qui est conflit et combat en nous. Le conflit, quand nous sommes en conflit avec nous-mêmes, eh bien, nous voyons ce que nous allons perdre. Quand nous combattons avec le Seigneur, nous voyons ce que nous allons gagner. Le conflit sans cesse garde nos yeux rivés sur la ligne de départ, le fameux concours dont parle Paul hein, tout à l'heure. Eh bien là, le combat projette notre regard vers la ligne d'arrivée. Le conflit intérieur nous paralyse. Nous sommes paralysés, nous sommes tiraillés, alors que le combat nous rend mobiles et nous donne de l'élan vers l'objectif à atteindre. Quand nous sommes dans le conflit intérieur, nous éprouvons souvent un malaise, alors que dans le combat spirituel, eh bien, nous avons paradoxalement cette fameuse paix dont parle saint Paul, cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire, au milieu du combat, nous sommes intérieurement en paix. Le conflit engendre souvent la peur et la tristesse. Le conflit nous rend sombres, nous fait perdre notre vitalité, alors que le combat spirituel nous rend paisibles et joyeux. Il nous donne un surcroît de vitalité, car nous savons que nous sommes vainqueurs dans le Christ. Le conflit, c'est un cercle vicieux qui nous enferme. Le combat, c'est un cercle vertueux qui nous protège. Et enfin, dans le conflit intérieur, nous sommes divisés, alors que dans le combat spirituel, nous sommes unifiés. Donc, vous voyez l'importance dans notre vie de pouvoir accéder à cette unité auquel le Seigneur nous appelle, parce que ce n'est pas faute, si vous voulez, d'avoir en nous des désirs de réaliser des choses, mais ces grands désirs, souvent, j'ai cette image d'un fleuve, vous voyez, qui coule, un fleuve de désirs, et puis d'un seul coup, il disparaît dans une faille dans la terre. Vous voyez, ces fleuves qui, d'un seul coup, plongent dans un gouffre. Et c'est souvent ce qui nous arrive si nous ne sommes pas unifiés, si ce gouffre n'est pas comblé par l'action et par cette communion avec le Seigneur, eh bien nos plus grands désirs se trouvent d'un seul coup absorbés par le monde. Voilà. C'est vraiment une invitation donc à être un avec le Christ, un en nous-mêmes, afin de pouvoir mener le bon combat.